Chers amis, chers lecteurs, bonjour. Je vous propose aujourd'hui un entretien avec le professeur Alexandre Douguine. Cet entretien est en plusieurs parties. La première partie est en accès libre et la suite est réservée aux abonnés de mon compte Substack, dont vous trouvez la description sous cette vidéo. Pierre-Antoine Plaquevent, substack.com.
Professeur Alexandre Douguine, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, c'est le premier d'une série d'entretiens qui vont être organisés un peu comme de cette manière, c'est-à-dire une première partie d'actualité internationale et puis une autre sur des thématiques de fond en rapport avec la géopolitique ou la métapolitique. Voilà, donc sur l'actualité internationale, je commence. Vous avez développé récemment une position qui m'a interpellé, qui est très intéressante, parce que, et c'est réellement la ligne que je suis et que nous suivons sur Strategica avec d'autres personnes, comme Youssef Indy ou Alain Soral et d'autres, c'est l'idée que finalement maintenant, il y a au sein de, pourrait dire, de l'opinion conservatrice occidentale, une scission entre les élites qui continuent en quelque sorte de défendre Netanyahou et la base qui, elle, comme la base MAGA, on le voit aux États-Unis, est dans une ligne qui serait ni Soros ni Netanyahou. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer peut-être cette idée et vous expliquer aussi que c'est finalement la ligne qu'il faut maintenant appuyer, même pour la Russie, et pensez-vous que c'est quelque chose qui va être pérenne dans les mois à venir?
Je peux commencer par cette division tripartite de la situation actuelle. Ce qu'on voit dans la politique internationale, dans la politique globale, mondiale, et aussi dans l'idéologie. Ce qu'il y a, comme vous avez dit très justement, il y a trois pôles en Occident qui se qu'on peut discerner, qu'on peut voir de plus en plus clairement, et qui représente en quelque sorte trois restes de l'Occident collectif qui vient d'exister très récemment, donc qui existait encore il y a une année. Donc, il y a un an, on a eu l'Occident collectif. L'Occident collectif bien consolidé, bien solidaire, avec une seule idéologie globaliste libérale, avec un seul centre de prise de décision, Washington, et les États-Unis de Biden ou de l'Obama représentaient précisément cet Occident collectif où les leaders, les chefs d'État de l'Europe étaient juste les vassaux, juste disons, les agents. On peut dire, on a eu l'Occident collectif organisé autour du centre américain avec la présence de l'élite globaliste d'un type Soros, d'Obama, etc. Et, disons, tous les restes qui suivaient cette ligne. Donc, l'Europe avait le rôle d'être en quelque sorte le outskirt, banlieue des États-Unis, dans le sens du globalisme. En quelque sorte, il était en même temps, disons, les alliés multilatéraux de ce centre-là. Donc, on a eu très récemment, moins qu'il y a un an, disons, l'Occident collectif organisé structurellement d'une manière assez solide, avec les élites de Washington au centre, l'agenda globaliste, la politique de genre, disons l'immigration sans borne, et l'élite européenne s'est inscrite, était inscrite dans le contexte général. Donc, on a eu l'Occident collectif très solidaire et très consolidé. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est que cet Occident collectif n'existe plus. Il y a juste les restes, les résidus de ce système-là, avec le centre et le socle. Adjacent à lui. Et donc, on a la vision totalement différente parce que aujourd'hui, on voit deux scissions, à mon avis, au centre de cet Occident. L'Occident n'est pas plus collectif. L'Occident s'est divisé. Et ce qu'on remarque, ce qu'on peut observer, peut-être qu'il y a beaucoup de plus des scissions et des divisions, on peut en discuter, mais ce que je vois bien clairement, c'est que il y a la continuation de la politique globaliste de Fukuyama, de Soros, unipolaire, libérale, la politique idéologie libérale de genre. D'idées de gouvernement mondial, comme c'était juste après la fin de l'Union soviétique. So, donc, il y a une certaine inertie, ou peut-être la tendance bien forte, bien puissante, je voudrais dire, qui reste jusque-là puissante, qui continue disons de faire la propagande, disons de faire la politique globale dans le sens de ce type de globalisme libéral. Et que veut dire le globalisme libéral? Ça veut dire que la souveraineté, toute la souveraineté doit être abolie. Donc, si on ouvre le manuel des relations internationales, le chapitre le libéralisme dans les relations internationales, on voit clairement que c'est l'idée de libéralisme au sein des relations internationales veut dire justement la liquidation total de toutes les souverainetés et création de l'instance internationale de gouvernance et basée sur l'idéologie libérale. Ce qu'il y a sûrement les individus, les individus totalement libérés de ses relations avec la nation, la religion, la race et même aussi aujourd'hui du genre. Donc des sexes. C'est donc les individus purs qui devront devenir les citoyens du monde. Donc tout l'individu est déjà a priori le citoyen. Et il y a cet gouvernement mondial qui dirige, qui doit gestir, disons, la relation entre les citoyens du monde, entre la multiplicité des individus, d'une manière de la politique intérieure. Donc, si quelque chose se passe dans le monde, il y a la police globale qui intervient et règle la situation. Donc, il y a le État monde, économie monde, comme dirait Fernand Braudel, économie monde, l'État monde, stratégie monde, la sécurité monde, donc,
Système monde.
oui, mondial, et c'est en quelque sorte cette ligne existe encore. Il y a, mais contre ça, il a, c'est apparu l'autre ligne, Trump, président Trump, qui a les idées totalement contraires à cette vision du monde, où il y a les nations, les États, les cultures, les sociétés indépendantes, les identités, les races, les immigrations, les citoyens, citoyenneté, les citoyens nationaux. Donc, c'est tout à fait différent. Je crois que c'est la grande division de l'Occident qui, d'une part, suit encore la vision de Soros, de Fukuyama, qu'il n'existe plus les entités nationales, il n'y a plus. Donc, on doit faire une fois, on doit faire, disons, le adjustment. On doit porter la situation actuelle à la situation désirable, désirée. Donc, c'est on doit transformer la réalité par rapport au projet globaliste, libéral, ceux qui font les leaders, les chefs d'État de l'Europe. Donc, il prend beaucoup des émigrés pour détruire, pour faire la dissolution des identités des gens de souche, de la population de souche. Donc, c'est en quelque sorte la logique, la stratégie qui encore est réalisée. Donc, elle n'était pas abandonnée. Mais en même temps, il y a l'autre tendance représentée par le Trump, par Trump et par le Trumpisme, qui est en quelque sorte le retour aux entités nationales, réalisme dans les relations internationales. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différence se traduit par rapport à Israël de Netanyahou. Parce que Israël de Netanyahou s'affirme comme l'identité souveraine, indépendante, nationaliste radicalement, avec l'identité forte, religieuse, raciste, en quelque sorte, nationaliste, et qui juste veut détruire les autres pour s'imposer comme, disons, l'empire juif, disons, non pas global, mais régional, l'empire juif régional, sans tenir compte des droits de l'homme, des autres choses, en accomplissant le génocide. Donc, le comportement de Netanyahou ne correspond absolument pas à la vision globaliste libérale. Et Trump, défendant le principe du réalisme, du nationalisme et même du racisme en quelque sorte, il appuie Netanyahou par le principe, non seulement par les intérêts nationaux, mais surtout par le principe idéologique, ce qui heurte contre la vision globaliste. Donc c'est seconde ligne. Mais aussi, il y a MAGA, comme vous avez dit très justement, il y a le mouvement qui a apporté Trump, disons, à sa position, mais qui ne comporte pas son attitude par rapport à Israël. Et par exemple, qui est beaucoup plus, disons, aux côtés disons, de multipolarité juste et balancée, qui est représentée par les autres que l'Occident. La multipolarité est représentée aujourd'hui par la Russie, par la Chine, par l'Inde, par le monde islamique, au-delà de l'Occident. Donc, et MAGA, à l'intérieur de l'Occident, disons, ayant en commun certains points avec Trump, personnellement, sauf son appui à Israël. MAGA, en quelque sorte, c'est la vision plus cohérente, plus logique, plus rationnelle, plus fondée de l'attitude multipolaire à l'intérieur de l'Occident qui est tous les autres. Donc, on voit dans le monde actuel, comme vous avez dit, trois tendances. La tendance globaliste, libérale, qui continue sa politique et qui contrôle l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui, parce que les leaders, les chefs d'État de l'Europe en majorité sont les globalistes libéraux, précisément. Il y a Trump avec sa vision du monde hégémonique, occidentaliste, impérialiste, même raciste, colonial, mais ouvertement, non pas couverte
Hypocritement, oui.
d'hypocrisie, soi-disant. Humaniste, et aussi il y a l'autre tendance. Je crois que MAGA américain est plus proche aux tendances populistes de droite dans l'Europe qui croissent, bien évidemment. Donc il y a trois tendances idéologiques et
Oui.
stratégiques aujourd'hui qui ont remplacé l'Occident collectif.
Mais on a l'impression que effectivement, alors est-ce que cette donc les globalistes, eux, sont en déclin, la tendance pour dire du césarisme trumpien est ascendant. Et maintenant, est-ce que donc comment est-ce que ce césarisme va pouvoir gérer, parce que finalement, Israël, l'exception d'Israël, c'est qu'elle se présente à la fois comme souverainiste face aux souverainistes occidentaux, mais localement, elle est impérialiste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ses frontières ne sont pas encore stabilisées, on ne sait pas jusqu'où leur projet de grand Israël s'arrêtera, on ne sait pas. Donc il y a toutes ces questions-là. On a l'impression effectivement donc si pourrait dire le messianisme globaliste maintenant décline, alors il reste ce messianisme régional. Est-ce que le césarisme occidental va pouvoir contenir ce messianisme, ou bien est-ce qu'il va vraiment réussir à enflammer l'Europe et enfin le Moyen-Orient, l'Europe et l'Eurasie finalement?
Je crois que vous avez touché la ligne plus importante, c'est le grand schisme. Et grâce à Alain de Benoist, on a vu qu'on peut appliquer l'analyse gramsciste, non pas seulement dans la gauche, mais aussi à droite, non seulement à gauche, mais aussi à droite. Et donc, si on pose la vision gramsciste de l'hégémonie, comme le fait non seulement économique, politique, mais aussi culturel, idéologique, si on considère le phénomène de césarisme aussi, c'est le concept de Gramsci, et si on peut songer de contre-hégémonie, mais cette fois non pas marxiste, comme Gramsci interprétait lui-même, ce qui est au-delà de césarisme, mais si on remplace le marxisme par l'idée multipolaire, par le retour aux civilisations, et au traditionnalisme, certains traditionnalisme multipolaire civilisationnel, qui est pluriversum, en quelque sorte, qui était prôné par Nouvelle Droite d'Alain de Benoist. Donc, on aurait, disons, la carte, hein, très très important, c'est en quelque sorte les instruments analytiques indispensables pour déchiffrer ce qu'on a. Donc, mais il faut insister. Qu'est-ce que c'est expliquer aussi aux gens, qu'est-ce que c'est le césarisme, qu'est-ce que c'est l'hégémonie et qu'est-ce que c'est contre-hégémonie. Si on applique ces instruments de l'analyse gramsciste vue de droite, d'un point de vue des traditionnalistes à la situation présente, on voit précisément ça. On voit qu'il y a le pôle hégémonique, encore hégémonique global, représenté par Soros et les siens. Donc c'est l'hégémonie. C'est l'hégémonie à l'état pur. C'est, disons, mise à nu. C'est l'hégémonie, le globalisme, la vision société ouverte, l'éradication de toutes les identités. Aussi les identités américaines et juives, ce qui est très important parce que Soros, c'est l'ennemi de l'État par rapport à Israël. Donc, il est conséquent. Il n'est pas hypocrite. Il veut juste le globalisme comme il représente la société ouverte sans les exceptions. Peut-être avec certaines exceptions de nazisme ukrainienne utilisée pragmatiquement contre les Russes, mais Israël n'est pas le, disons le n'est ne, pas le n'est pas l'exemple de cette hypocrisie de Soros. Donc les libéraux, les globalistes, ils incluent dans leur vision, le nazisme ukrainien, parce que c'est minoritaire par rapport à la Grande Russie, et utilise ça pour ses moyens, pour ses buts, comme le moyen pour ses buts. Mais ce qui est très important, Soros et les siens excluent Israël de ça. Donc, pour eux, c'est l'État national. Cet État-nation, c'est, disons, c'est entité souverainiste qu'il faut combattre, qu'il faut détruire, et d'où l'appui à Palestine de la part de Macron, de la part de Starmer, de Merz, des autres. Donc, il faut voir bien clairement leur agenda. C'est l'hégémonie. Aujourd'hui, la position pro-palestinienne, généralement, est la position hégémonique, appuyée par Soros, parce qu'il voit dans l'existence même du régime de Netanyahou l'obstacle pour création de politique d'État mondial. Ce qui est intéressant, ce qui est, vous avez bien, très bien expliqué que Trump est césariste dans le contexte de Gramsci. Donc, Trump, qu'est-ce que c'est le césarisme? C'est accepter quelque chose de l'hégémonie et poser, disons, certains filtres par rapport à certains osmosis, certaines membranes par rapport aux autres contextes. Donc, le césarisme accepte quelque chose et rejette quelque chose de la pression hégémonique. Donc, c'est en quelque sorte, césarisme, c'est la possibilité de faire le choix entre ce qu'on accepte de la part de l'hégémonie et ce qu'on rejette. Donc, c'est césarisme. Et c'est bien correct par rapport à Trump. Donc, Trump est vraiment césariste. Et MAGA, et la position de Trump par rapport à Netanyahou, c'est l'appui d'un césariste à l'autre, d'un nationaliste et raciste à l'autre. Le raciste américain appuie le raciste juif, et c'est bien rentre dans la vision de césarisme décrit par Gramsci. Quand je dis raciste ou nationaliste, ce n'est pas péjoratif, c'est juste
Oui, descriptif.
oui, descriptif. Donc, je ne veux pas insulter personne
Bien
dans
sûr,
tout
oui.
ça. Parce que le régime de Netanyahou est bien ouvertement raciste, mais pour les libéraux, c'est quelque chose d'inacceptable. Je voudrais bien juste décrire la situation, non pas juger, disons. J'utilise ça d'une manière neutre, comme le terme neutre. C'est ni bien ni mauvais en soi. Donc, c'est
Oui.
donc le césariste, la position césariste de Trump, c'est l'autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que MAGA est le populisme de droite européenne qui sont en même temps contre Israël et contre Soros, contre le libéralisme globaliste. Logiquement, ces mouvements-là, ils devraient élaborer l'idéologie contre-hégémonique. C'est quelque chose de plus que juste opportunisme césariste, mais l'idéologie cohérente. Et je crois qu'il n'y a pas autre idéologie cohérente existante aujourd'hui que la vision multipolaire. Disons, cette acceptation, ce qu'on a l'affaire avec les civilisations. La civilisation nord-américaine, la civilisation sud-américaine, la civilisation européenne, la civilisation russe, la civilisation islamique, la civilisation chinoise, la civilisation indienne, africaine. Et si on est d'accord de considérer qu'il y a les civilisations et non pas seulement une seule civilisation, donc on devient automatiquement réaliste, mais non pas au niveau des États-nations, mais au niveau des États-civilisations. Ce qui Huntington a eu en vue quand il a proposé, quand elle a proposé cette vision de le choc des civilisations. Non, parce que le choc, tout le monde remarque le choc, mais le choc, c'est secondaire, parce que le choc est possible selon la vision réaliste d'une relation relationnelle, c'est en quelque sorte la conséquence de la souveraineté. Si il y a le pouvoir, la puissance souveraine, donc il y a possibilité de la guerre, de conflit, de choc. C'est en quelque sorte le chaos dans les relations internationales, c'est le terme technique, disons, de la discipline
Oui, c'est
de l'école des réalistes
le
dans la
réalisme.
relations internationales. Donc,
C'est l'anarchie.
oui, l'anarchie des relations internationales, le chaos, ce sont les termes descriptifs, non pas
Descriptif.
théoriques, non pas péjoratifs en quelque sorte.
Oui.
Et plus important chez Huntington, c'est désignation des civilisations comme les auteurs essentiels des relations internationales dans le futur. C'est plus important, beaucoup plus important, ce qu'il nomme, non pas les États-nations, comme les auteurs, disons, le sujet des relations
Oui.
internationales du futur, mais les civilisations. Donc, je crois que la base idéologique, intellectuelle, géopolitique, philosophique pour ça a été déjà préparé par Alain de Benoist, par la nouvelle droite. Donc, ce qu'il faut à MAGA, à mon avis, c'est lire et relire Alain de Benoist et la nouvelle droite française, européenne, non pas New Right. C'est quelque chose totalement différent. Donc, la théorie de la contre-hégémonie est déjà formulée par l'individu LSI. Hein. Donc, cette idée a été développée chez nous, les Russes, et non seulement pour nous, mais pour tous les autres aussi. Donc, c'est en quelque sorte, c'est la théorie du monde multipolaire n'est pas seulement la théorie des Russes. Elle est applicable à l'Occident, à l'Orient, à l'Afrique, au Sud, au Nord. Donc, c'est quelque chose de plus général. Et je crois que c'est le pas que MAGA aux États-Unis et, disons, les populistes européennes doivent accomplir, le pas nécessaire pour définir leur position. Non pas d'une manière situationniste, donc opportuniste, mais pour trouver la base idéologique de leur position. Parce que je crois que ce qu'ils disaient pendant les décennies à l'Indébinois, aujourd'hui obtient, disons, la chair. Ça devient la réalité. Donc la théorie devient la réalité. Et je me considère comme son disciple, en quelque sorte, dans l'Indébinois, dans beaucoup de choses. Donc, je crois que nous avons eu la raison dans notre analyse, tout au début lui-même, à l'Indébinois, et son école, et l'école eurasiste, qui défendait la multipolarité, le passage des États-nations vers les civilisations, donc l'idée de l'Europe, donc l'idée disons, de l'Amérique du Nord, comme les civilisations indépendantes. Donc, on a déjà préparé la base idéologique pour contre-hégémonie. Et je crois que MAGA se trouve précisément dans la position qui a besoin quelques idéologies. Parce qu'en suivant Trump, en critiquant Trump, en tombant dans le conspirationnisme, si quelque chose ne correspond pas à leur désir, à leur vision, c'est une manière chaotique de faire la politique. Je crois que on arrive au point où la politique de MAGA doit obtenir disons, la base géopolitique, comme pour les populistes de l'Europe aussi.
Alors, justement, il va se poser ce problème, je dirais, stratégique pour l'Europe, et c'est que l'Europe, deux choses. Déjà, est-ce que les Américains ont toujours intérêt à ce que l'Europe ne s'unifie jamais assez pour devenir un concurrent. Et d'un autre côté, ils ont toujours un intérêt à maintenir assez d'Europe pour que les États-nations, et notamment la France, soient prisonniers dans les restes, je dirais, de l'hégémonie, comme vous avez expliqué. Donc il va se poser ce problème pour, je dirais, un MAGA européen. C'est-à-dire, déjà historiquement, l'Europe n'a jamais réussi à être un État civilisation du fait de la lutte pluriséculaire entre le Saint-Empire romain germanique, l'Église et même le Royaume de France. Et ensuite, effectivement, théoriquement, notamment les Français et la Nouvelle Droite l'ont théorisé, mais pratiquement, est-ce que, selon vous, dans les années à venir, on va, de fait, on va être obligé d'accoucher de cette espèce de nouvelle forme politique qui serait l'État civilisation européen. Et on a une autre problématique, c'est que comment dire, les seuls porteurs d'un projet européen actuellement sont les globalistes. C'est-à-dire, pour eux, l'Europe, c'est la région monde d'un futur État mondial. Donc on a cette problématique-là, c'est comment créer un État civilisation européen qui en fait n'a plus existé depuis la tentative peut-être de Charlemagne.
Je crois que c'est le problème, mais quand même, il y a certains très généraux dans lesquels nous pouvons deviner cette possibilité. Il y a Je suis tout à fait d'accord, il y a les problèmes. Mais si on peut suivre, disons, la logique formelle, le monde devient multipolaire. Une chose, si on est d'accord, c'est une chose, c'est à droite. Si on n'est pas d'accord, on est à gauche. La gouvernance européenne n'est pas d'accord. Donc, il faut renverser le gouvernement européen. Donc, c'est la révolution. La révolution pour combattre le but très concret. Parce que la puissance des leaders globalistes idéologiques de l'Europe est la chose concrète. Et ce n'est pas la chose abstraite. Abstraite.
Oui.
Donc, il y a, disons, le but contre quoi lutter. Quand on entre dans la phase révolutionnaire, plus important est de faire bouleverser, disons, les ennemis. Donc, les globalistes, ce sont les ennemis absolus et il faut chercher partout. Partout, même parmi les immigrants, les immigrés, parmi les, disons, les classes, parmi la gauche, les gens qui sont d'accord pour ce but central. Renverser, disons, le pouvoir globaliste parce que ils n'acceptent pas, même théoriquement, disons la vision multipolaire. Donc, pour eux, l'Europe toujours sera hôtel, comme pour Macron. Hôtel Europe. C'est fini. Chacun qui ose dire les choses pareilles doit être immédiatement annihilé, à mon avis. Par rapport à l'esprit, à la logique, à la stratégie de l'Europe européenne. Second point, donc, on doit opter pour l'Europe dans le contexte du monde multipolaire, en affirmant l'Europe comme le pôle. Est-ce possible en appuyant sur les États-nations qui existent en Europe? Non, absolument non. Donc, le souverainisme nationaliste et le nationalisme européen n'est pas suffisant pour être quelque option sérieuse, disons, pour l'avenir. C'est juste, on peut utiliser ça comme la gauche, comme tout le monde, comme les immigrés, comme
Oui.
l'islam, comme tout le monde, on peut utiliser dans la lutte pour renverser les libéraux, mais le projet nationaliste n'a aucune chance dans le monde multipolaire de, disons, d'être vraiment utile pour la création de l'Europe. L'Europe libérale, c'est contradiction. L'Europe nationaliste, ce n'est pas l'Europe. C'est la continuation des, disons, des scissions, des oppositions que vous avez évoquées déjà. Disons, le Rome contre les empereurs, la France contre les Anglais, contre les Allemands, etc., etc. Donc, on doit avoir l'idée de l'Europe non libérale, je voudrais dire illibérale,
Oui.
l'Europe illibérale, mais unie, non pas
Oui.
séparée par les nations, parce que si l'on considère que avec la victoire des peuples européens contre les élites globalistes oppressives, finalement, si on fera le retour aux États-nations, donc l'Europe sera séparée. Les Américains, les Russes, les Chinois, le pôle islamique, tous les autres vont à utiliser, disons, cette diversité, cette scission-là, pour manipuler. Donc, l'Europe deviendra la frontière
Voilà.
entre des autres puissances. Si l'Europe veut de devenir quelque chose d'indépendante et souveraine, elle doit être unie sur la base de logique radicalement opposé au libéralisme. Donc, on peut songer à proposer le projet de l'Empire européen. Il faut trouver quelques formules, quelques visions, quelques formulations pour ça. Je crois que la Suisse, dont l'exemple, comme les peuples protestants, catholiques, séculaires, fédérales, centralistes, peut coexister. C'est quelque chose, la Suisse idéale, la Suisse transcendantale, qui pourra être le seul pays vraiment européen qui ne fait pas partie de l'Union européenne. La Suisse, c'est l'Europe comment elle devra être. Donc, c'est. Devrait être. Donc, c'est quelque chose comme la vision de l'Europe, unifiant les contradictions, disons les Gaules et les Allemands, le Nord protestant et le Sud catholique, donc l'Europe synthétique, l'Europe, disons, comme Jean-Paul Wolesko à imaginer l'Europe de la fin, la grande Europe, plus grande Europe gaulienne, disons impériale, chrétienne, eschatologique. Au-delà, disons, de l'imagination de cette Europe, mais tout commence avec l'imagination. On commence d'imaginer quelque chose, la société ouverte, individu, disons, la politique du genre, et finalement on arrive à la réalisation des projets, des rêves. Donc il faut rêver, il faut de nouveau rêver, il faut découvrir la capacité aux Européens de rêver l'Europe, de considérer l'Europe, et je crois que ça sera la seule voie possible pour arriver au but de... Mais ce qui est intéressant, c'est que la rêve européenne possible et même inexistante correspond à une réalité déjà existante de la multipolarité qui apparaît aujourd'hui. Donc, c'est la vision désir, le côté désir, le côté réalité, ils ne sont pas tellement opposés. Donc, l'Europe est obligée de devenir le pôle. Mais les gouvernants actuels ne sont pas coupables, absolument pas. Ils sont totalement inadéquate au niveau intellectuel, idéologique, parce que c'est leur vision de l'Europe telle que contredisent directement l'Europe pôle. Donc, il faut songer, il faut créer, il faut construire, même pratiquement réaliser. Réellement, au niveau des faits durs, l'Europe pôle. Et ben, pour faire ça, il faut avoir l'idéologie de l'Europe pôle. Ma fille, Daria, vous voyez son photo que vous connaissiez. D'ailleurs, nous avons rassemblé les écrits de Daria dans le livre qui s'appelle La théorie de l'Europe. À mon avis, c'est très important que cette jeune fille a songé l'Europe pôle, précisément. Le message de Daria, plus important dans son livre, ce qui s'appelle Théorie de l'Europe, c'est elle songeait, elle était très pro-européenne, elle songeait l'Europe pôle, l'Europe indépendante par rapport non seulement des Américaines, des pôles islamiques, le pôle chinois, mais aussi l'Europe indépendante des nous, Russes. C'est très important. C'est la question de principe, non pas, disons, des stratégies nationale. C'est, à mon avis, ce qu'on a besoin aujourd'hui en Europe, c'est l'idéologie de l'Europe pôle, au-delà du globalisme, mais aussi au-delà, disons, des réactions viscérales nationalistes
Oui.
qu'on voit aujourd'hui.